Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, c'est vraiment la beauté du parcours, la beauté des retrouvailles avec soi que nous allons découvrir. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Asma Ben Slimane, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous avoir, Lella. Comment ça va, Lella, Asma?
Très bien, merci pour l'invitation et bravo pour tout ce que vous faites pour les femmes.
Arbechlek, et surtout bravo à vous pour cette belle carrière, en fait, entre l'institutionnel et l'associatif.
Oui.
Beaucoup de choses, Barclaylik, Lella Asma, justement.
Merci
alors,
beaucoup.
Le CV d'IEL qui est tellement plein, puisque vous êtes présidente fondatrice de tellement d'associations, et en même temps vous êtes chef de division au sein d'un grand groupe maritime marocain, je n'arrive pas à cerner votre profil. Qui êtes-vous exactement, Lella Asma Ben Slimane?
En fait, je suis une femme normale, une femme qui a grandi dans une famille modeste. J'étais par contre très ambitieuse depuis que j'étais petite, parce que pour moi, une fille ne doit pas se contenter dans les stéréotypes que nous avons, mais elle doit avoir de l'ambition.
Mmh.
Donc,
alors, c'est quoi
l'étude
et... Oui. Allez-y, allez-y. Après, elle, je vous poserai la question. Allez-y.
D'accord. J'ai fait, ben, brièvement, en fait, j'ai fait des études. D'abord, j'étais tout le temps première de la classe, chose que je ne recommande pas. Surtout pour les parents qui demandent à leurs enfants d'être toujours les premiers de la classe, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça ne veut rien dire. Il faut les orienter vers des études qui vont dans le sens de leur passion. Bon, ce n'était pas le cas pour moi. Donc, c'est vrai que j'étais ambitieuse, que je me trouvais dans ce que je faisais. Mais après, c'est après que j'ai découvert que c'est pas aligné avec ma passion. Donc, bref, j'ai fait des études en finance. Je suis lauréate de l'ISCAE. Après, j'ai intégré un grand groupe. Et après avoir travaillé 5 ans, je découvre que je ne suis pas faite pour les finances et je devais me chercher. Entre-temps, je suis tombée malade et j'allais perdre carrément la vue. J'ai essayé ici au Maroc, je n'ai pas trouvé de diagnostic précis. Je repars en France. Après, on ne me donne rien. On me dit que tu ne souffres de rien physique. Il faut juste vivre ta passion. Alors, au début, je n'ai pas cru. Je me suis dit que le médecin est en train de me raconter n'importe quoi. Mais quand je suis revenue, j'ai commencé à me chercher effectivement qu'est-ce qui me plaît. Et là où j'ai commencé l'associatif. Quand j'ai commencé l'associatif, j'ai commencé à ressentir un bien-être intérieur.
Incroyable. Donc en fait, à l'époque déjà, c'est le corps qui a parlé avant l'âme.
Oui, oui, c'est mon corps. C'est mon corps qui a commencé à crier. Et voilà, au début, je n'ai pas créé une association. J'ai intégré d'autres associations, le temps de découvrir. Et je voulais découvrir quelle cause vraiment qui me passionne. Et finalement, c'était les bébés. J'avais créé l'association Bébés du Maroc en 2010. Après, j'ai rejoint une association américaine de jeunes. Et à l'époque, l'avantage, c'est qu'ils m'ont permis de toucher à tout. Donc, moi, je suis de formation financière, mais j'ai touché à la communication, j'ai touché à community service, j'ai touché vraiment à tout. Et là où j'ai découvert, comme c'est international, j'ai découvert ma passion pour la coopération internationale et pour les relations internationales. Au fil du temps, pour être bref, j'ai eu l'occasion de travailler dans un cabinet ministériel et c'est là où j'ai découvert vraiment ma passion. J'ai exercé ma passion dans le domaine professionnel. Je me suis retrouvée dans des associations à travailler volontairement, même au niveau international. J'étais assignée à 8 pays de l'Afrique et je faisais des visites officielles, je rencontrais des ministres, tout ça, c'était à titre volontaire. Mais ça m'a permis de me découvrir et de choisir ma voie après. Et voilà, donc après, quand j'étais sûre de ce que je voulais, j'ai fait carrément un master en études diplomatiques en temps aménagé, un autre en communication politique et publique, et là, je suis sur le... Je suis, j'attends juste la date de ma soutenance pour un doctorat en relations internationales.
Tabarakallah, actuellement donc.
Actuellement, oui. J'attends juste la date de soutenance.
Alors, Lala Asma, aujourd'hui, vous avez plus de 25 années d'expérience. Vous êtes également, vous êtes également la présidente fondatrice de WIMAM Morocco. C'est une organisation panafricaine née sous l'impulsion de l'Union africaine. WIM Africa fédère les associations de femmes travaillant dans les métiers maritimes, portuaires et logistiques. Et en même temps, vous préparez un doctorat. Comment vous faites, tabarakallah?
En fait, c'était un conseil d'un coach que j'ai rencontré pendant la période de transformation où j'étais malade et j'allais perdre la vue. Je l'avais rencontré, je peux citer son nom.
Oui, bien sûr.
L'adorable Sifdil Gharbaoui, qui m'a vraiment... à l'époque, il faisait un coaching, des séances de coaching en groupe. Et j'étais invitée à y participer et vraiment ça m'a fait vraiment une transformation totale et je me rappelle très bien une slide a suffi pour que ma vie bascule. Votre question c'était comment je fais.
Oui.
Il nous a mis l'image de quelqu'un qui allongé sur le dos sur un lit et il nous a demandé combien d'heures vous dormez par jour. Tout le monde a répondu 8 heures, 7 heures. Je dis, bon, si vous dormez 8 heures, qui est la norme, donc c'est le un tiers de votre vie. Si vous vivez 60 ans, vous allez dormir 20 ans. Et là, cette information m'a choquée. Je me suis dit, comment moi, je peux me permettre de dormir 20 ans? Alors, je vais être... Et il a enchaîné, et si vous voulez être des personnes ordinaires, il faut dormir 8 heures, comme tout le monde. Mais si vous dormez moins... Et bien sûr, vous équilibrez avec le sport, et voilà, toute une hygiène de vie, vous allez être une personne extraordinaire. Donc, il faut juste faire le choix. Est-ce que vous voulez être ordinaire ou extraordinaire? Donc, moi, ça m'a travaillé. Et je me suis dit, non, effectivement, pour réaliser beaucoup de choses, travailler, faire tout ça, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre parce que la ressource la plus démocratique au monde, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures.
Oui.
La différence qui fait la différence, c'est l'utilisation de ces 24 heures, comment chacun de nous l'utilise. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à dormir 5 heures. Les 2 heures ou 3 heures de plus que je gagne, qui m'ont permis de faire beaucoup de choses, sincèrement.
Alors, en même temps, je mets ça dans le contexte de votre vécu. Vous avez vécu ce qu'on peut appeler aujourd'hui un burn-out au tout début de votre carrière.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu peur de prendre son conseil, de diminuer votre temps de repos pour réaliser encore plus de choses à un moment où vous avez vécu vraiment l'impact de la fatigue? Vous avez déjà vécu ça dans votre corps?
Non, c'était le burn-out que j'ai eu, c'était pas dû à la fatigue. C'était dû à une fatigue psychologique parce que j'avais dans mon entourage professionnel des personnes toxiques et notamment mon chef direct. Donc du coup, j'ai vécu une expérience désagréable qui m'a beaucoup travaillé et du coup j'ai compris que pour équilibrer un peu, il faut être avec les personnes en dehors des horaires de travail, bien sûr, les personnes qu'on aime, les personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, et avec qui on peut créer de belles choses qui nous passionnent. Donc voilà, c'est l'équilibre qu'il me fallait à l'époque.
C'est ça.
Donc j'ai essayé de le trouver. Bien sûr, on paye, rien n'est gratuit. J'ai payé 3 heures de mon sommeil.
Oui.
Pour gagner tout ça.
Exactement. Alors, donc, en fait, vous êtes dans le fameux club des 5 heures du matin, bien avant que ce soit à la mode.
Oui, c'est ça.
Yeg. C'est un entraînement, oui, c'est de pouvoir se réveiller. Et vous étiez beaucoup plus jeune. C'est vrai qu'avec l'âge, on va dire, on a envie de moins dormir. Mais quand on est très jeune, on a envie, le corps a besoin de plus dormir. C'était... Quand vous avez fait ça à l'âge de 30 ans, etc., Vous l'avez expérimenté comment? Un moment où c'était pas courant.
En fait, moi, je suis une couche tard. Donc, j'ai essayé d'allonger un peu mes heures de la soirée. Mmh. Au lieu de dormir à 11 heures, je dormais vers 1 heure, 2 heures du matin. Et la matinée, je me réveille à 7 heures, comme tout le monde. Donc,
oui, c'est l'inverse. Et le club du 5 heures du matin, l'inverse. vous l'avez...
C'est mauvais, je sais que c'est mauvais. J'ai essayé de faire l'inverse, mais je n'ai pas pu. Mm. Je suis une couche tard. J'ai posé même la question à plusieurs médecins. Ils m'ont dit, y a des gens qui préfèrent travailler le soir parce que moi, je suis plus concentrée le soir. Mm. Et je l'ai remarqué. Si, par exemple, je me réveille à 5 heures du matin pour travailler... Je ne vais pas être plus
efficace
que le soir. Je ne vais pas être efficace.
Est-ce que Leila Esma, vous définissez comme une workaholic?
Workaholic, non, je ne pense pas.
Non. Une sérielle entrepreneur. Parce que vous faites une forme d'entrepreneuriat, en fait. Vous êtes, c'est vrai
ça,
que vous...
l'entrepreneuriat volontaire.
Volontaire, exactement. Vous enchaînez les associations, les fondations, etc. Vous êtes une sérielle femme de l'associatif. Il y a une forme de workaholism dans ça. Il y a une forme de... C'est la passion, c'est ça la vraie passion?
Oui, c'est une vraie... Je préfère dire que c'est un travail que je fais par passion, parce que quand on donne de notre temps, de notre argent, ça doit être juste la passion. Donc, on ne peut pas... Et vraiment, c'est à titre gratuit. Donc, ça peut être que la passion qui peut nous pousser à faire ça.
Mmh. Vous avez dit quelque chose quand on a démarré l'entretien. Vous avez dit, j'ai toujours été une personne ambitieuse. Mais quand on lit l'incarnation de l'ambition à travers votre carrière, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément les titres, mais c'est les réalisations, j'ai l'impression. Parce que quand on est dans l'associatif,
c'est le changement. J'aime bien être un acteur de changement.
Oui.
Par exemple, quand je vois qu'il y a un dysfonctionnement, j'aime bien fédérer des gens avec moi et essayer de changer ne serait-ce que quelques petites choses. Et au lieu de croiser les bras, rester à ne rien faire, au moins, on peut faire quelque chose. Mmh. Même si c'est petit, mais on peut faire quelque chose.
Donc, en fait, quand on parle d'ambition, ce n'est pas forcément péjoratif. Parce que parfois, quand on entend quelqu'un dire, on n'a pas l'habitude dans notre contexte marocain, et encore moins une femme dire, je suis ambitieuse, l'assumer. Forcément, le mental, il nous ramène vers quoi? Il ramène, c'est une personne ambitieuse, peut-être opportuniste, peut-être... matérialiste, peut-être, alors que vous...
Pour l'argent aussi,
oui, c'est ça.
On dit ça peut-être pour l'argent, mais non, je ne suis pas le cas. Bah, la preuve, c'est qu'au lieu de créer des entreprises, je crée des associations.
C'est ça. C'est qu'avec vous, en fait, vous cassez les codes de l'ambition, des préjugés sur l'ambition.
C'est ça. Mm. L'ambition, pour moi, ça veut dire pouvoir changer quelque chose dans la société.
Oui. Et vous avez dit aussi, ne poussez pas vos enfants à être les premiers de la classe.
Oui.
C'était votre
c'est
cas,
mauvais,
vous ?
C'est très mauvais.
Oui.
Oui. En fait, mes parents ne m'ont pas poussée directement, mais c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose de vrai. Mais pendant les années 80, si vous vous rappelez, au Maroc, il y avait qu'une seule chaîne, c'était la RTM. La SNRT, donc tous les enfants restent scotchés pendant au moins une heure ou deux devant la télé parce qu'il y avait les dessins animés. Après, il y avait les infos. Et à l'époque, mon père aimait beaucoup regarder les infos.
Oui.
Donc je m'assois toujours à côté de lui et quand Feu Hassan II apparaît, je lui pose la question quelquefois. Papa, comment faire pour être à côté de lui?
Oui.
Il me dit, il faut que tu sois la première de la classe.
Oui.
Bon, il ne m'a pas poussé directement ou bien il m'a demandé des comptes rendus sur mon évolution, par exemple, en classe, chaque jour, mais indirectement, il m'a programmé.
Ouais.
Parce que moi, je voulais vraiment intégrer ce cercle de personnes qui sont à côté du roi. Mmh. Moi, j'étais petite, ben, je ne pensais pas vraiment, je ne réalisais pas
ce que ça voulait dire, en fait.
Je disais
ouais.
Ce que ça voulait dire, mais c'était mon ambition.
Mmh.
Et lui, il me disait toujours, il faut que tu sois la première de la classe. Donc pour moi, c'était une programmation.
Ouais.
Et ça, c'est très mauvais parce que être le premier de la classe ne veut rien dire. Vraiment, ne veut rien dire.
Mm.
Parce que je connais des personnes qui étaient vraiment les derniers de la classe. Mais ils vivaient leur passion. Ils ont travaillé dans des domaines qui les passionnent. Ils sont partis très loin.
Mm.
Et ils n'avaient pas besoin... comme moi, de faire un double travail. Par exemple, moi, j'avais ma vie professionnelle qui était très prenante, mais à côté, j'étais obligée d'ajouter, bien sûr, 3 heures ou bien de diminuer 3 heures
de sommeil.
De sommeil pour vivre ma passion. Donc ça, c'est pas bon.
Mm.
C'est pas bon. À la langue, c'est pas bon. Mais pour moi, un enfant, il faut lui dire, il faut vivre ta passion. Mm. Ce que tu aimes, on est avec toi. Donc, mais être le premier de la classe, mon père, il le disait parce qu'il voulait du bien pour moi, mais il ne réalisait pas que j'allais être programmée, que j'allais avoir tous ces problèmes après. Mmh.
Aujourd'hui, est-ce que vous vivez votre passion?
Oui. Oui, Dieu merci. Dieu merci. Parce que vous n'imaginez pas le temps que... au moment où je faisais le master... études diplomatiques en temps aménagé. Moi, j'habite à Casa et le master, je faisais à l'université Mohamed V à Rabat.
Mm.
Et chaque jour, je devais me déplacer à Rabat pour un cours de 18h à 20h, chaque jour,
ah.
Y compris le samedi matin. Et je faisais ça avec beaucoup de plaisir et je rentrais à la maison vers 22h. Le lendemain, je devais partir au boulot. Et bien sûr, être impliqué dans un master comme ça, ça veut dire préparer des exposés, des présentations. Et moi, mon background, c'était pas un background de droit public
mm.
ou de relations internationales ou de Sciences Po. Donc, je devais faire vraiment un grand effort pour me mettre à niveau et pour pouvoir suivre ce que les professeurs... était en train de nous raconter, parce que vous savez, au niveau master, on ne va pas revenir, par exemple, à la chronologie de la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, ou bien les alliés, qui étaient les alliés, qui étaient les... Ça, tout ça, j'ai dû le faire en extra pour pouvoir m'adapter et réussir ce master.
Oui. Et le doctorat aujourd'hui, mais avec le rôle que vous avez au sein du groupe maritime
En fait... ma passion n'avait aucune relation avec ce que je faisais au travail.
Oui, c'est ça.
Et jusqu'à ces 3 dernières années, heureusement, on avait un manager, je dirais un leader, parce qu'un manager, c'est juste qui gère les gens. Mais un leader, c'est quelqu'un qui essaie de dénicher, par exemple, le potentiel de chaque membre de l'équipe et essayer de le placer dans la bonne place où il peut être épanoui et rendre service à l'entreprise. Donc, jusqu'à il y a 3 ans maintenant, je peux dire que je travaille dans un domaine qui me passionne.
Mmh. Au sein de la même boîte.
C'était pas le cas. Oui, avant, c'était pas le cas.
Ouais. Et pourtant, même si avant, c'était pas le cas, vous n'aviez jamais pensé à partir.
Oui, parce qu'il y a d'autres considérations, vous savez, parce que, partir pour travailler encore dans un boulot qui ne me passionne pas, ça ne m'intéressait pas.
Mm.
Donc, il fallait que j'ai des diplômes d'abord dans le domaine qui me passionne, et après, je peux réfléchir où est-ce que je vais partir.
Oui.
Et entre-temps, quand j'ai préparé les diplômes, Dieu merci, on a eu un changement au niveau du top management, et les choses ont changé.
Mm. Alors, comment la personne, et je vais vous poser la question, quand la personne est dans un environnement qui ne lui convient pas forcément, mais elle doit faire avec
En fait, j'ai suivi le conseil du coach qui disait que nous sommes, par exemple, quand on est dans un travail qui ne nous passionne pas, que nous faisons juste pour, par exemple, pour l'argent, il faut dire que je suis là pour vendre mon temps. Mm. Je suis en train de vendre mon temps et en contrepartie, on me paye. Donc, il faut accepter. Donc, il ne faut pas que les gens... Par exemple, est-ce que une boîte va payer quelqu'un alors qu'il ne faut rien? Non, il faut qu'il vienne, il faut qu'il donne de son temps, il faut qu'il travaille, il faut qu'il montre qu'il a une valeur ajoutée. Ça, c'est la contrepartie du salaire.
Oui.
Donc, on ne peut pas... Ça, c'est...
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le discours courant, c'est qu'on dit il faut un épanouissement. On a l'impression qu'en fait, il faut s'épanouir dans tout ce qu'on fait.
Oui, c'est ça. Mais parfois, on ne peut pas s'épanouir dans tout ce qu'on fait. On est obligé de rester dans un boulot, dans un job, ou rester dans... Par exemple, il y a des gens... Que diriez-vous des gens qui ne sont pas épanouis dans leur famille, dans leur couple, et qui restent quand même?
Oui.
Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des... Il y a parfois des choix à faire. Bon, j'aurais pu quitter, mais je me suis dit, il faut s'armer d'abord de diplômes. Et le temps que j'ai eu mes diplômes dans le domaine qui me passionne,
la vie a changé au sein de la boîte.
La vie a changé, la vie de la au sein de la boîte. J'ai eu ce que je voulais, un poste qui me passionne, qui va dans le sens de ma passion.
Oui. Alors, avec vous, Asma Ben Slimane, ce qu'on retient, c'est que c'est vraiment l'incarnation de la résilience et de l'apprentissage et de l'évolution personnelle à travers le travail sur soi.
Heureusement. Et votre émission va jouer aussi un rôle dans ce sens, parce que le fait de partager les parcours des personnes qui ont des parcours un peu comme le mien, un peu diversifiés, parce que si tu vois mon parcours, tu vas juste comprendre que j'étais en train de me chercher au début.
Oui. Et que c'est pas grave, et que c'est même bien en fait, parce que vous avez fini par vous trouver, c'est ça le plus beau.
C'est ça le plus beau.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien, et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.